qui va nous retenir ce soir. Qu'est-ce qu'un peuple? Alors peut-être que le sujet de nos jours n'apparaît pas manifestement philosophique. Après tout, on pourrait peut-être ce soir se le demander, mais il ne faut jamais d'ailleurs trop interpréter trop rapidement ou préjuger d'une influence quelconque ou d'une absence d'influence. Néanmoins, cette question est bien d'entrée philosophique, puisqu'elle a occupé, je dirais, elle a requis l'intention et même a donné à une œuvre philosophique majeure, puisque je commencerai par l'évocation des discours à la nation allemande de Fichte. Et là, on est d'entrée, je dirais, dans la philosophie. Alors effectivement, Fichte, dans son huitième discours, les discours à la nation allemande en comprennent 14, ils s'échelonnent de 1808 à 1809, dans un contexte très précis. Bon, 1806, c'est la victoire de Iéna, Bonaparte écrase la Prusse. Déjà, un philosophe, et pas n'importe lequel, en tire, je dirais, des conséquences conceptuelles. Lequel philosophe se nomme Hegel et va écrire dans la foulée la phénoménologie de l'esprit. Et cette phénoménologie de l'esprit ne nous éloigne pas tant de la question du peuple, puisque pour Hegel, pour le résumer très vite, trop vite, bien sûr, l'esprit universel se manifeste, se développe peu à peu à travers des expériences historiques circonstanciées, à travers différents peuples, pour aboutir à une manifestation définitive, à une réconciliation où cet esprit enfin parvient à se connaître lui-même dans une universalité. Donc déjà, la question de peuple est présente dans la phénoménologie de Hegel et reprise d'ailleurs dans ses cours sur l'histoire de la philosophie. Mais occupation française de la Prusse et de l'ensemble de l'Allemagne, et le philosophe Fichte, autre très grand nom de ce que l'on appelle en métaphysique l'idéalisme allemand, l'idéalisme, qui jusqu'à ce moment était plutôt admiratif d'une approche, je dirais, universelle du politique, quelque part, comme il le dira lui-même, abstraite. En deux mots, il avait écrit des considérations sur la Révolution française. Eh bien, Fichte va considérer au fond qu'il y a un réveil de l'Allemagne, et comme vous le savez, l'Allemagne était une entité géographique, mais non pas une réalité, je dirais, politique. Il y avait de très nombreuses principautés et des royaumes, dont le fameux royaume de Prusse, lequel, depuis Frédéric II, faisait parler de lui et intéressait la philosophie, hein, et les philosophes. Eh bien, Fichte va prononcer ses 14 discours. Et ces 14 discours, il va chercher à définir essentiellement trois choses. La première, qu'est-ce qui peut permettre aux Allemands, à l'Allemagne, l'Allemagne dont il donne une étymologie, l'homme qui est l'humanité en lui-même, voilà l'étymologie qu'il donne d'Allemagne, ce qui va permettre ce réveil. Deuxième approche, pour lui, c'est à travers la notion de peuple, et c'est là qu'il va arriver à conceptualiser, parce que bien entendu, ces 14 discours ne sont pas, comme parfois on peut le lire dans certains manuels, ou selon une récupération, un simple discours qui serait nationaliste, mais c'est bien un texte éminemment philosophique. Qu'est-ce qu'un peuple? Et d'arriver à, pour lui, à cette tension entre l'universel et le particulier, l'universel et le local, par le concept, je dirais, d'éducation. Donc, dans le huitième discours, il va donner cette définition du peuple, un ensemble d'hommes vivant en société qui se créent eux-mêmes, par eux-mêmes, spirituellement et naturellement. Donc je répète, un ensemble d'hommes vivant en société qui se créent eux-mêmes. Et l'idée d'une création historique par eux-mêmes, spirituellement et naturellement. Alors bien entendu, pour Fichte, Le terme spirituel, c'est pas comme pour Hegel, ne désigne pas du religieux, mais désigne ce qui manifeste une idée. Une idée, un concept ou le concept. Par conséquent, un peuple, pour lui, est l'expression d'une idée. Mais cette expression d'une idée, ça ne suffit pas, et c'est là où il se détache de sa première manière de philosopher, ne suffit pas parce qu'on resterait pour lui dans une abstraction ou dans un universel abstrait. Et donc, ce peuple doit avoir une souche, doit avoir une origine historique. Et pour lui, et là je ne discute pas du bien fondé de ses assertions, hein, j'essaye de voir ce fil conceptuel, pour Fichte, le peuple allemand est un peuple le plus proche de ce qu'il appelle le primitif, c'est-à-dire l'originel, non contaminé, enfin pas contaminé, ne le dit pas comme ça, mais ça serait une lecture au XXe siècle de Fichte, bien entendu, j'ai pas besoin de la préciser, hein, voilà, mais le texte de Fichte, très pertinemment, dit qu'il n'a pas d'élément qui soit étranger, ce qu'il entend par étranger, qui soit abstrait. Et ce peuple se définit donc par son histoire, un sol, et essentiellement par une langue, langue dans laquelle va se manifester, va vibrer quelque part cette idée. Et pour Fichte, on ne peut atteindre l'universel qu'à partir d'un peuple. Donc on voit bien qu'il n'y a pas négation de l'universel, parce que peut-être la question « qu'est-ce qu'un peuple ?» pose cette question de l'universalité. Effectivement, y a-t-il un peuple ou y a-t-il qu'une humanité qui, quelque part, transcendrait ou se devrait de transcender, toute appartenance à un peuple. Or, Fichte le définit spirituellement et naturellement, et bien entendu, c'est entre autres des discours à la nation allemande que vient ce topos du rapprochement de la langue allemande, laquelle serait, selon lui, mais pas seulement selon lui, la plus proche du grec. On retrouve par exemple cette même idée chez Heidegger. Bien, donc il y a une entrée, je dirais, très conceptuelle, philosophique par Fichte. Néanmoins, on n'est pas dans un café philosophique, on ne va pas commenter, ce n'est pas le but, la philosophie de Fichte. Ça me semblait être en entrée pour poser que ça, c'était bien, je dirais, un enjeu philosophique, métaphysique majeur. Mais dans un deuxième temps, je vous propose pour notre réflexion de ce soir d'examiner, les termes même de peuple. Hein, parce qu'il y a, le moins que l'on puisse dire, une très grande polysémie, une très grande complexité sémantique. Donc on le voit bien que pour Fichte, il en donne une définition, hein, ce n'est un ensemble, ce n'est pas seulement un ensemble d'hommes, je dirais un groupe humain, ou comme il le dit, à part une multitude d'hommes, mais qui se créent eux-mêmes et par eux-mêmes. Donc on voit bien un élément historique et on pourrait dire culturel, lequel passe par la langue. Alors, notre terme, nous, de peuple, bien entendu, il faudrait questionner l'allemand, alors les plusieurs sens du terme allemand, bien entendu, on a le Volk, qui est moins le peuple au sens politique que peut-être ce qui est antérieur à la constitution du politique, parce que se demander qu'est-ce qu'un peuple, c'est questionner l'universel, mais aussi de fait questionner le politique en corrélation avec l'universel. Et là, sans piquer d'érudition, va bien falloir passer par ces Grecs sollicités par Fichte. L'allemand connaît aussi le terme, alors là, qui serait à rapprocher de patrie Vaterland, hein, là, le pays, je dirais, du père, et je rappelle d'ailleurs que patrie, hein, vient du latin, mais en fait là, un mot latin qui vient directement du grec, et patris, donc la terre du père. Hein, la terre du père, la terre où le père, quelque part, ou les pères, mais dans le mot le père, repose. Donc on a l'idée effectivement du sol, on a l'idée d'un enracinement, en tout cas, d'une présence, d'une filiation par les morts. Et puis, il y a aussi, mais on y reviendra au cours de nos échanges, en allemand, là, le concept, parce que c'est un concept difficile que l'on trouve entre autres chez Heidegger, le Heimat, qui vient d'un terme qui veut dire le foyer, et l'Heimat, c'est assez complexe, ce n'est pas la patrie, c'est ce qui, dans un lieu, advient, c'est, je dirais, comme dit Heidegger, le séjour propre de quelque chose. Donc, avoir son Heimat, c'est de pouvoir séjourner. C'est lié au lieu. C'est pas seulement la patrie, même pris dans le sens historique ou territorial, c'est ce qui fait advenir un sens propre qui ne peut avoir lieu que dans ce lieu. Alors, parfois, on le traduit par enracinement, mais on sait que ce terme très lourdement connoté peut avoir plusieurs acceptions, hein, mais il y a une acception très large, très philosophique, notamment chez Simone Weil, et peut-être que nous y reviendrons. Mais revenons sur notre peuple, qui bien entendu vient du latin populus, certes, mais qui déjà est complexe. Parce que, qu'est-ce qu'un peuple ? Le déterminant, ce n'est pas qu'est-ce que le peuple. Et on voit bien que dans cette notion de peuple, on a déjà, indépendamment de Fichte, deux acceptions. Est-ce qu'un peuple, effectivement, c'est cette entité historique particulière, locale ? On pourrait dire par local, j'entends, il n'y a jamais un peuple. On verra si, d'ailleurs, de parler d'un peuple universel aurait un sens, mais d'un peuple. Donc ça peut avoir ce sens, on va dire, de création, d'entité historique, de collectivité, et puis, de communauté, pardon, et puis nous pouvons aussi avoir le peuple, c'est-à-dire la partie, si je reprends le sens latin, la partie la plus nombreuse de ce qui serait ce peuple, voire de ce qui n'appartiendrait plus à ce peuple, ce que l'on peut appeler la multitude, ce que les Grecs appelaient le pléthos, qui a donné pléthorique, ce que d'ailleurs les latins appelaient la tourba, la tourbe, hein, même pas la plèbe d'ailleurs, et de ce que d'aucuns, autrefois du moins, avec une connotation fortement péjorative, appelaient la populace. Si bien qu'à la limite par peuple, on peut même introduire la notion, le concept de prolétaire, bien entendu du prolès, ça en fait partie. Donc on aurait, quand on parle de peuple, de quoi parle-t-on exactement ? Un peuple, le peuple, mais encore le peuple, ne signifiant pas forcément cette multitude, on voit bien qu'on a déjà une complexité polysémique. Bien entendu, dans le sens de Fichte, on pourrait dire, on l'a bien compris, qu'il ne s'agit pas de cette multitude. Au contraire, pour Fichte, le peuple doit permettre qu'il n'y ait plus cette multitude. Alors, en latin, populus, sans d'ailleurs trop s'étendre dans l'étymologie, mais là quand même ça éclaire, parce qu'on a, je pense que chaque terme amène, va peut-être enrichir la réflexion. Tout début du sens, le populus, ça voulait dire, et c'est quand même intéressant pour la définition de ce qu'est un peuple, au fond, l'ensemble des fantassins. Donc, il y a une idée militaire, et ce qu'était la plèbe, il y avait une vieille expression en latin, hein, populus plebsque, c'était ceux qui sont hors des légions. Pas des esclaves, hein, mais ceux qui ne sont pas dans les légions, c'est-à-dire qui ne portent pas les armes. Donc avec une idée déjà, quelque part, un petit peu dépréciative, de mise à part. Ensuite, le populus a désigné l'ensemble des citoyens. Donc,
c'est fermé, il faut faire le tour.
Oui, donc, l'ensemble, je dirais, du corps de la cité, de la Oups de Rome, quels que soient, je dirais, les statuts sociaux. Et c'est là que plèbe va prendre un sens précis, plus seulement de ceux qui ne portent pas les armes, mais de ceux qui font bien partie de la Oups, comme citoyens, bien entendu, les hommes, hein, bon, je ne reviens pas sur la discrimination homme-femme, les hommes, mais qui ne sont donc pas des patriciens. Et là, c'est quand même important parce que dans la réflexion politique, on a tendance parfois à penser que le terme de classe, cette notion de classe sociale, nous vient de Marx. Or, Marx, honnêtement, reconnaissait lui-même que là-dessus, il n'avait strictement rien inventé, qu'il l'avait d'ailleurs emprunté à des auteurs comme par exemple Guizot, hein, qui n'a pas seulement été un ministre de Louis-Philippe, mais aussi un professeur à Normale supérieure, à la rue d'Ulm, et de philosophie politique. qu'il n'empruntait d'ailleurs, Tocqueville emploie le terme classe, Augustin Thierry, mais eux-mêmes l'employaient aux auteurs anciens et entre autres à Tite-Live. Et Tite-Live, dans son histoire romaine, nous explique comment la plèbe privée de droits, c'est-à-dire des droits par rapport au mariage, hein, de pouvoir contracter des unions, eh bien, cette plèbe s'est retirée sur l'Aventin. D'ailleurs, c'est une expression qui est restée longtemps, se retirer sur l'Aventin, c'est-à-dire je cesse, quelque part, relation, et je me retire. Donc la plèbe s'est retirée. Et bien entendu, sur une des collines de Rome, et bien entendu, les patriciens seuls ne pouvaient plus rien. Donc ils ont, et Tite-Live raconte très bien ce rapport de force, on pourrait presque dire de classe, en tout cas de groupe, hein, et ils ont concédé des droits à la plèbe. Des droits à la plèbe. Donc les plébéiens ont bien été reconnus comme véritablement citoyens de Rome. Et rien à voir avec, bien entendu, les esclaves, lesquels étant privés de tout droit et dans l'esprit de l'Antiquité n'entrant même pas dans ces notions. Néanmoins, la plèbe, malgré ses droits, alors elle avait ses propres représentants, par exemple les tribuns, hein, ce terme de tribun, d'ailleurs, intéressant, qui a une connotation quelque part péjorative. Si on a gardé des sénateurs, l'image du Sénat romain, un sénateur, je ne sais pas s'ils ont un train, mais bon, train de sénateur, en revanche, tribun, hein, si on lit dans la presse, si on entend quand on dit quelqu'un, c'est un tribun, il y a quelque part cette notion péjorative, hein, par rapport à la plèbe. D'ailleurs, le terme est resté, c'est la plèbe. Bien. Et certains auteurs romains vont distinguer entre la plèbe, quand même les citoyens, et dans cette plèbe, finalement, cette multitude, ce peuple trop nombreux, mal éduqué, hein, ce peuple pour qui on donnait les pains et les jeux, ce que le latin rendait par un terme très péjoratif, turba. Donc on voit bien que là, il y a une dérive quelque part du sens de peuple. Certes, tout ça fait un populus, mais pour les penseurs, comme si on les penseurs romains, on a très vite une déviance. Enfin, on a très vite une ségrégation. Tout de suite, dans quelque chose qui serait sans qualité, qui serait de l'ordre du nombreux, hein, du multitude, du non-éduqué, c'est clairement dit dans Cicéron. Alors, éduqué, pas pris au sens que nous donnons aujourd'hui, mais quelque part formé pour être un homme libre, hein, selon cet idéal de Lucian. Donc on voit bien la complexité, l'ambiguïté du terme qui va rester. Et puis on peut aller aussi voir quand même du côté des Grecs, hein, et là, ça va être encore une autre approche de qu'est-ce qu'un peuple. Les Grecs emploient finalement trois termes qui ne sont pas du tout synonymes. Le premier, c'est le génos. Génos qui a quand même donné gène, et a donné génétique. Le génos, c'est au fond l'affiliation, la généalogie. Il y a Homère, dans l'Odyssée, Télémaque, à un moment, se présente, je suis du génos d'Athènes, du génos d'Ithaque, et mon père est Ulysse. Hein? Donc, en fait, ce qui fait ma filiation. Donc, le génos a un sens quasiment biologique de transmission et de filiation par les pères. Et avec un terme plutôt aristocratique. Hein? Dans la tragédie grecque, on parle du génos. Donc, c'est un côté positif. On ne parlera pas du génos, du génos spécialement pour un simple citoyen. Même si encore du temps homérique, d'ailleurs, il n'y avait pas de citoyen. Mais il est intéressant dans le fameux discours de Périclès, dont se moque d'ailleurs Platon, qu'ils font pour dire que la démocratie athénienne, tous les citoyens ont bien le génos. D'ailleurs, les citoyens grecs considéraient que ceux qui n'étaient, même sous la démocratie de Périclès, hein, que ceux qui n'étaient pas du génos grec d'Athènes étaient les fameux métèques, hein, c'est-à-dire les étrangers. Ceux qui n'étaient pas de ce génos, de cette filiation qui faisait les Athéniens. Et Périclès tenait bien à rappeler que dans cette démocratie, hein, tous les citoyens étaient bien de ce génos d'Athènes. Ensuite, je lui dis le mot, le démos, démocratie. Et bien entendu, peut-être notre sujet n'occulte pas une réflexion sur la démocratie puisqu'on a démos. Mais démos, ça vient du grec daimonia, qui veut dire partager, diviser, et ça a un sens territorial, dans un premier temps. Ce n'est pas ce sens de la filiation, quasiment, entre guillemets, biologique. Ça a un sens territorial, le démos. Donc, c'est le sens territorial. Et si au départ, la force du peuple, c'est que, bien entendu, ça vient que tous les citoyens d'Athènes étaient répartis dans des dèmes, ce qui a donné démos, qui sont en fait des divisions territoriales. Donc on voit bien qu'on arrive à la notion, là, de peuple, par rapport toujours à quelque part une extension. Et c'est très clair avec le démos, qui dans un premier temps n'est pas forcément démocrate, n'est pas forcément le peuple. C'est tout citoyen d'Athènes, relève d'un dème. Mais par extension, si moi je n'ai que comme qualité que de n'être que d'un dème, alors c'est peut-être cela la démocratie. Là on reviendra dans la réflexion contemporaine. Dernière piste. Et puis, troisième terme, très intéressant, ethnos, qui a bien entendu donné ethnie. Et l'ethnos peut avoir deux acceptions. La première, c'est tout groupe. Alors même chez les Grecs, d'ailleurs, c'est valable pour les animaux. Hein. Tout groupe qui se caractérise par un ethos, c'est-à-dire par des coutumes, des habitudes. Ce qu'on pourrait dire en latin, par des mœurs. Voilà. Et deuxième sens, un sens, on pourrait dire, géographique, des caractères géographiques. Par exemple, pour Aristote, les ethnées du Nord ont du courage, mais par contre n'ont aucune habileté. En revanche, ceux qu'il estime vers l'Asie ont beaucoup d'habileté, mais sont veules. Hein, ils sont plutôt faits pour les régimes despotiques, esclaves. D'ailleurs, quand Montesquieu reprendra sa théorie des climats politiques, il ne faut pas l'oublier qu'il la reprendra directement des politiques d'Aristote, à peine modifiées. Donc, on sent ethnie. Et pour les Grecs, ne sont ethnés que les autres. C'est-à-dire, et c'est là où on vient sur cette notion de construction de la philosophie politique, au fond, ne serait peuple, au sens ethnique, que tous ceux qui ne sont pas des Grecs. C'est-à-dire pour Aristote, et la science, de nouveau, on retrouve pleinement la philosophie, de ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas arrivés à la cité. Et c'est là que, philosophiquement, le débat peut être très intéressant. À quel moment le politique intervient? Si on prend effectivement Aristote ou Platon, même si Platon a une approche beaucoup plus aristocratique Aristote, mais qu'importe, il n'y a de politique, la police, que dans le cadre de la cité. Or, la cité, par essence, dépasse aussi bien le génos, même si pour Platon il est bon d'être bien né, et dépasse le dème, dépasse l'ethnée. Ce n'est pas seulement d'avoir des mœurs ou des coutumes, c'est de pouvoir s'organiser en cité, c'est-à-dire de se constituer politiquement, pour Aristote, par le logos. C'est-à-dire pas seulement vivre d'une certaine façon, ce qui serait un peuple, après tout ne pas oublier que d'ethnos nous a donné le mot ethnologie. Qu'est-ce que l'ethnologie, par exemple? Si on fait la généalogie de la notion, qu'est-ce que c'est cette invention qu'est l'ethnologie? Mais de se constituer par la raison en cité. Et donc, la philosophie politique, à la fois, en tout cas dans son approche classique, pense la politique dans le cadre de la cité, et dans la cité, qui dit cité dit raison, en tout cas dit logos, et dit, pour les Grecs, un universel. Alors qu'il n'est pas un universel dans le sens d'une homogénéité au niveau planétaire, bien sûr, mais d'un universel au regard de cette raison, de ce logos, qui discerne et qui permet de déterminer et de dégager des essences. Donc, le peuple est-il politiquement constitué ou est-il antérieur à du politique? Première question que nous donne la philosophie au sens classique. Fichte lui donne la réponse, puisqu'il essaye de concilier le peuple au sens quelque part de l'ethnos, au sens du génos, si on reprend les termes grecs, et en même temps au sens de cette rationalité de ce logos, C'est en quelque sorte la modernité, on pourrait dire, Fichtel, dans les discours à la nation, les discours à la nation allemande. Sachant d'ailleurs que le terme de nation, dans un premier sens, par exemple sous l'Ancien Régime, Mazarin avait créé le Collège des Quatre Nations. Par quatre nations, ça pouvait aussi dire, sur l'Ancien Régime, on parlait par exemple des peuples. Les peuples, c'était d'ailleurs pas forcément le peuple dans le sens un peu la populace, mais les peuples, c'était ces différentes, je dirais, us et coutumes du royaume. Il y avait des peuples. Et d'ailleurs, des peuples avec des privilèges, c'est-à-dire des spécificités juridiques, coutumières, voilà, des peuples. Hein, par exemple, dans le sud de la France, il y avait une... l'impôt était voté, par exemple. Il y avait des jurats, ce qui était différent, au nord de la Loire. Bon, et ça venait effectivement d'une origine, l'expression est restée d'ailleurs jusqu'à la fin de l'Ancien Régime de parler des peuples. Même si, bien entendu, l'idée moderne de nation surgissait, et avec le fameux texte, bien entendu, de Sieyès, qu'est-ce que le tiers-État ? Mais on voit bien que dans l'idée moderne de nation, c'est aussi de constituer encore politique rationnelle ce qui serait seulement soit de l'ordre du coutumier, et là, par exemple, on peut questionner la politique des langues, ou je dirais la guerre des langues instaurée par la Révolution française, qu'il en est du statut du français, par exemple, au breton, au basque ou à autre chose, hein, au provençal, hein, ce sens-là. Donc, cette idée de nation qui rejoindrait quelque part cette idée de cité, hein, la nation, là aussi. Est-ce qu'on emploie nation au sens ancien ou pas? Sachant qu'au sens ancien, celui qui incarne la nation, c'est le roi. On tente dans son corps royal. Bien. Donc on voit bien la question que pose politique. Enfin, dernière excursion à notre idée. Au fond, un peuple, qu'est-ce qui le caractériserait? Donc, serait des coutumes, serait des mœurs, serait un langage. Est-ce que pour autant cela permet de se constituer en politique? Qu'en est-il? Ensuite, quel est le rapport de cette notion de peuple à l'universel? Et puis, en fait, est-ce que le peuple, les peuples sont obstacles à l'universel ou pas? Mais que faut-il entendre par l'universel? L'universel est-il nécessairement quelque chose d'abstrait, d'homogène, qui ne tiendrait pas compte d'un concret? Donc on retrouve peut-être une opposition à questionner concrète, abstraite. Et puis, le peuple, enfin, bien entendu, sans... qu'en est-il par rapport aussi à l'histoire? Si on reprend le sens hegelien, est-ce que finalement l'histoire aurait un sens et que ce sens serait le dépassement des peuples pour arriver à une sorte d'état mondial homogène, comme le dit Hegel? Ou est-ce que quelque part c'est une illusion que les peuples ne peuvent pas être dépassés ou même qu'il n'est pas bon d'être dépassé? On voit, et sans faire bien entendu de politique, et ce n'est pas l'objet d'un café philosophique, nous restons sur le plan conceptuel, que cette idée de peuple a, je dirais, une actualité aujourd'hui. A une actualité aujourd'hui, et d'ailleurs on pourrait même, sur un plan philosophique, voir que ce que l'on appelle parfois le régionalisme ou les revendications régionales, quand on creuse un peu, se pense en termes de peuple. Enfin, dernière chose, même si ce n'est pas... Dernière remarque philosophique, c'est bien entendu, on pourrait se pencher sur le philosophe par rapport à cette question de l'histoire, sur le philosophe Rosenzweig, hein, avec l'œuvre majeure aussi du XXe siècle qui a très largement inspiré Levinas, l'étoile de la rédemption. Et là, on part de quoi? Dans un premier temps, Rosenzweig est hegelien, il est juif mais complètement laïque. Et Rosenzweig, dans l'épreuve de la Première Guerre mondiale, va donc amorcer toute une autre réflexion philosophique que de son hegelianisme de départ, et va finalement se dire, en ayant une réflexion sur est-ce que ce conflit, cette guerre, cette boucherie, a-t-elle finalement ce sens historique d'un développement de l'esprit que dit Hegel, et va revenir sur une critique de la philosophie de l'histoire, et de cela, il va être amené à questionner cette singularité que l'on appelle effectivement, et d'ailleurs il reviendra à la religion de ses pères, de ce que l'on appelle effectivement le peuple juif. En posant sa caractéristique, à la fois on retrouve tout ce qui caractériserait un peuple, mais de manière paradoxale, puisque s'il y a bien une langue, il n'y a effectivement pas de sol, puisque c'est un peuple de l'exil, et il y a moins des lois qu'une revendication de la loi, ou prise comme la loi. Donc on voit que ça peut être aussi même une ouverture, en tout cas, la réflexion de peuple, en tout cas chez ce philosophe, par rapport à la question de l'histoire. Alors voilà ce que l'on peut, très, je dirais, modestement, essayer de voir sur ce sujet, au moins d'avoir souligné son enjeu philosophique, même s'il pouvait paraître... Et puis, dernière chose, qu'en est-il du peuple au sens prolétaire, de multitude, du pléthos, que je pense qu'il ne faut pas du tout oublier. Qu'est-ce que l'on désigne par là? Et puis, après tout, dans les nouvelles pratiques philosophiques, on aime à citer cette phrase de Diderot, il faut se hâter de rendre la philosophie populaire. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la philosophie pourrait constituer un peuple? Ou est-ce que ça veut dire que celui qui est de la multitude, celui qui est de cette plèbe, de cette tourbe, comme disaient les Romains, eh bien, peut-il prétendre, lui aussi, à philosopher? Et peut-être que ça recoupe, justement, la prétention de la philosophie à l'universel. Donc voilà un petit peu un débroussaillage de quelques notions. J'espère ne pas m'être trop attardé sur des sens grecs et latins, mais il me semblait d'ailleurs que peut-être dans ce qu'on appelle un peuple, même aujourd'hui, je dirais dans les tensions idéologiques de notre temps, il y avait au fond toutes ces notions qui se confrontaient, pas toujours d'ailleurs élucidées, parce que c'est vrai, quand on parle de peuple, on l'entend souvent très différemment. Notre but étant ici, en toute sérénité, de dégager les concepts ou le concept. Laissons à chacun, je dirais, ses goûts en la matière. Oui, alors...